En fait, on a vu beaucoup de choses et on s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais faire une récapitulation avant de passer à la conclusion. Et puis, je vous propose, dans le temps qui nous restera, si vous avez des questions, si vous voulez aborder un aspect ou un autre, ou des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Donc, ce qui se présente comme des énoncés pour un théologien, spontanément se présente comme un objet de prière, comme un objet l'objet du regard de la prière pour l'homme qui écoute sa conscience, ou qui laisse vivre l'image du Christ en lui. Alors comment s'opère cette transformation du regard ? Car encore une fois, c'est le regard qui a changé, c'est pas l'énoncé, qui transforme le contenu d'une appréhension notionnelle en appréhension réelle. On a déjà obtenu beaucoup, beaucoup d'éléments de réponse jusqu'ici. Alors, je vais les récapituler avant qu'on revienne pour conclure sur le récit de la première conversion de Newman. Première chose. Parce que la révélation se déploie dans l'histoire et qu'elle comporte une histoire avec ses intrigues, ses drames, ses rebondissements, qu'elle implique des lieux, des ambiances, tout ce qui constitue notre réalité, spontanément, elle sollicite notre imagination davantage que notre raison, mais non sans que celle-ci ne soit elle aussi sollicitée, mais dans un deuxième temps. D'accord ? La révélation a un contenu intelligible, mais c'est après, entre guillemets, l'intuition de la révélation, audition de la parole, que la raison exerce son œuvre, en dépliant dans un second temps et progressivement le contenu de ce qui a été expérimenté. Ça, c'est un cas, la révélation est un cas maximum, un cas limite. Et ce que Newman vous a dit là, on l'a déjà vu dans le cas de la lecture de Virgile, et vous pouvez l'appliquer à des expériences ordinaires de votre vie. La plupart du temps, nous ne savons pas ce qui nous arrive. Et c'est après que nous dégageons le sens. Ce qui veut dire que le cours de notre vie est rempli d'intuitions pour lesquelles il nous manque des concepts. D'événements, autrement dit. D'événements sur lesquels nous n'arrivons pas au moment même à mettre un mot. C'est après, avec le temps, que nous arriverons. Bien. Deuxième chose, la doctrine néanmoins, la doctrine constituée, donc dans un deuxième temps, néanmoins, n'ajoute rien à la révélation, nous dit Newman. Alors, j'ai pas eu le temps d'aborder la question du développement avec vous, peut-être qu'on pourra l'année prochaine ou une fois en reparler. La doctrine n'ajoute rien à la révélation, elle modalise ce que Newman appelle l'idée chrétienne ou l'image du Christ. Idée, image. Cette image existe sous deux états, naturel et incoatif, sous forme d'ébauche, comme une image floue. C'est la conscience. Et elle existe comme révélée et accomplie. C'est ce que j'appelle l'icône du Christ. Vous avez bien vu que le propre de la conscience, c'est que c'est elle qui nous regarde. C'est une parole qui nous touche. Elle a la précédence sur nous. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est simplement de se mettre à disposition pour l'entendre, faire silence et l'écouter. Mais elle est toujours là. Il n'y a pas de condition véritablement. Si, il n'y a pas de condition, il y a un empêchement. L'empêchement, c'est nous. Il n'y a pas de condition. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons d'un point de vue rationnel, logique, de l'écoute ou de la non-écoute, ou de la possibilité de la manifestation, de l'apparition à la conscience, à l'apparition consciente du phénomène de la conscience, elle s'impose quand on fait silence. Et elle s'impose surtout quand on agit, tantôt bien et plutôt tantôt mal. Ce qui veut dire que même à travers ce que nous faisons de mal, ou c'est le principe du Felix Culpa de Pâques, vous savez, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur, nous dit l'Exultate, l'hymne de Pâques, eh bien, d'une certaine manière, mais c'est un peu à la limite ce que je vous dis, faites attention, même là, au fond de ce qui peut paraître un acte dévié, qui fait comme crier la conscience, est toujours plus fort, c'est là que peut se passer le retournement. Et c'est peut-être pour ça que des hommes comme saint Augustin sont devenus très grands saints. Le Seigneur n'aime pas les tièdes, il aime bien les violents. Parce qu'ils aiment ceux qui agissent d'une certaine manière. Parce qu'ils pourraient agir sur eux. Parce qu'à un moment donné, que leur fragilité va se manifester. Alors, je force peut-être un peu ici le rapprochement entre conscience comme écho ou voix de Dieu en nous avec l'image ou vision intérieure qu'évoque Newman. Mais il me semble que la grammaire de l'ascendiment n'interdit pas le rapprochement, puisque dans la deuxième partie de l'ouvrage, si vous vous reportez à la structure de la grammaire qui constitue le premier encadré que je vous ai donné, vous avez vu qu'à l'extrême gauche, vous avez les propositions, et à l'extrême droite du carré, vous avez la vision, qui est l'image en fait du Christ en nous. Donc il y a une espèce de polarité qui existe, une relation qui existe et qui est également valable pour la conscience. Cette image ou cette vision remplit progressivement dans la grammaire de l'assentiment le rôle qui est auparavant reconnu à la conscience. Comment s'opère cette transformation du regard ? En se laissant regarder par le Christ, je vous l'ai dit, en découvrant qu'il nous regarde, que nous sentons son regard, que nous sentons son regard sur nous dans le phénomène de la conscience. Donc nous le percevons. Donc nous percevons le Christ. Souvenez-vous du commencement du cours tout à l'heure. Puis-je voir comme je crois ? Réponse, Dieu, personne ne l'a jamais vu, personne ne peut le voir. Bien. Et Newman repart, et pourtant, je pense que l'on peut, et je vais vous montrer comment. La conscience nous expose progressivement au regard du Christ. La conscience nous fait sentir son regard. La conscience nous le fait purement et simplement percevoir. Et j'allais presque dire apercevoir et percevoir. Donc presque voir. Or, souvenez-vous de la leçon que nous avons tirée ce matin, tout ce qui se donne, tout ce qui se montre, se donne, mais tout ce qui se donne ne se montre pas forcément. Il faut donc repenser la vision. Et ce que dit Newman, c'est que, oui, on peut sentir Dieu. Dieu, ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas un concept suprême. Même si une distance infinie, bien sûr, nous sépare de lui, néanmoins, parce que nous sommes des créatures et qu'il est notre créateur, nous sommes toujours touchés par lui. La création, ce n'est pas un moment, et puis ensuite les causes secondes se développent. La création, c'est un toucher perpétuel du Seigneur sur nous. Et en ce sens, la conscience, c'est le toucher permanent de Dieu sur nous, ou alors la trace de notre être de créature, qui fait que nous ne pouvons pas être fermés totalement sur nous, il y a une ouverture. C'est l'impression, le sentiment, le ressenti, l'affect, qui dépasse tout ce que le monde peut nous donner, et même que tout ce qu'un autre être humain peut nous donner. C'est cela que Newman a senti en lui, c'est cela qu'il a théorisé à partir de 1816, et tout au cours de sa vie, comme philosophe et comme théologien, il s'est toujours défendu d'être théologien. Il ne s'est jamais défendu d'être philosophe. Pour une raison qui a à voir avec le statut de la théologie dans la perspective des pères de l'Église. Mais ça nous, c'est pas le propos. Nous sentons le regard, nous sommes touchés, nous, entre guillemets, voyons. Nous voyons le regard du Christ sur nous dans le phénomène de la conscience. Alors je vous propose pour revenir et pour conclure maintenant qu'on relise avec tout ce que nous avons vu depuis ce matin le récit de sa première conversion. Et puis je vais m'arrêter sur les mots en italique et sur une formule dans ce paragraphe. Je le relis avec vous. Quand je fus âgé de 15 ans, un grand changement de pensée eut lieu en moi. Je tombais sous les influences d'un credo défini et reçus les impressions produites par le dogme sur mon esprit, lesquelles, par la miséricorde de Dieu, n'ont jamais été effacées ni obscurcies. Cette conversion intérieure dont j'étais conscient et dont je suis plus certain que d'avoir des pieds et des mains, les mains et des pieds, eut quelque influence sur mes opinions dans le sens de ces imaginations d'enfance que j'ai déjà évoquées. Elle eut pour effet de m'isoler des objets qui m'encerclaient, de me conforter dans mon doute quant à la réalité des phénomènes matériels et de me faire reposer dans la pensée des deux et des deux seuls êtres absolus dont l'existence s'éclaire et s'atteste mutuellement, moi-même et mon Créateur. Les termes sur lesquels je voudrais qu'on termine, ce sont ceux qui suivent en français « s'éclaire et s'atteste mutuellement », en anglais vous les avez, « self-evident », et à côté l'origine latine de ce terme anglais, evidentia, qui est une création de Cicéron pour traduire un terme grec que l'on trouve chez Homère, et qui se dit enargeis. L'évidence, au sens étymologique du terme, et c'est en ce sens-là que Newman l'utilise dans ce passage, c'est pour ça que ce passage n'est pas un passage autobiographique, c'est un passage philosophique. Evidentia, c'est l'acte de voir et c'est l'acte d'être vu. C'est l'acte de voir et l'acte d'être conscient que l'on est vu. D'accord ? Pour retrouver ce face-à-face, l'idée de deux visions qui se croisent. Bien. Ensuite, evidentia, ça inclut évidemment la vision, mais une vision de caractère qu'on appelle en philosophie apodictique, c'est-à-dire certaine. Absolument certaine. Absolue. Une évidence absolue qui s'impose d'elle-même. Indubitable. Et evidentia, enfin, qui dérive du grec enargeis, enargeis étant un terme que l'on trouve utilisé pour la toute première fois chez Homère, je vous dirai où, veut dire l'éclat, la brillance, la lumière. Mais la lumière, une lumière spécifique. En philosophie, le concept d'évidence a gardé cette notion de lumière qui s'impose d'elle-même. On parle d'être l'esprit est éclairé, parce qu'on a compris, bien, c'est évident. Évident, c'est que c'est clair comme de l'eau de roche, on va presque dire, bien. Bon, dans Energeis, cette brillance, elle est attachée d'abord, en premier lieu, c'est son sens originaire, à l'effet que produit la manifestation des dieux. Les dieux se manifestent avec brillance, avec éclat, et dans cette manifestation, s'accompagne, ou cette manifestation s'accompagne d'impressions, d'affects spécifiques, la crainte révérentielle devant l'autre, devant le tout autre, devant le Dieu, devant le divin. Rudolf Otto appellerait ça le numineux, donc l'effet que provoque le sacré. Ce que self-evident veut dire, ici, utilisé par Newman, il veut dire que dans cet éclairage et cette attestation mutuelle, Dieu s'est comme manifesté, Dieu s'est littéralement manifesté à lui. Dieu s'est comme découvert à lui, aussi évident qu'il l'est à lui-même, et plus évident que le monde l'est. L'évidence de Dieu s'est imposée à Newman, de manière plus lourde, de manière plus indubitable que celle du monde, à travers un phénomène spécifique, parce que c'est de cela qu'il parle, le phénomène de la conscience. Dans le phénomène de la conscience, le dynamisme propre du phénomène de la conscience, c'est donc de rendre évident le divin, Energeis, qui apparaît brillant, éclatant, terrifiant, mais qui demande une prédisposition. Dans la traduction de l'Odyssée, dont est tiré le terme Energeis, ou la première occurrence du terme Energeis, la traduction de Philippe Jacotet, qui est une très belle traduction, que je vous invite à lire, au livre 16 de l'Odyssée, vers 161. Philippe Jacotet traduit ainsi l'apparition. C'est l'apparition d'Athéna, quand Ulysse revient, Athéna apparaît à lui et à son fils, et c'est Ulysse qui voit la manifestation d'Athéna. Son fils ne la voit pas, et Homère fait cette remarque: pourquoi le fils de Ulysse ne voit-il pas Athéna, donc la déesse, donc le divin, donc le dieu? Parce que tous les dieux ne se montrent pas à tous les yeux. Tous les dieux ne se montrent pas à tous les yeux. C'est ça, la logique la plus profonde le sens plutôt, de self-evident, de cette auto-attestation dont nous parle Newman. Pour que l'on puisse voir, et Newman nous dit, nous pouvons voir, nous pouvons percevoir, nous pouvons sentir, il faut que nos yeux soient préparés. Il faut s'être préparé, s'être disposé par l'écoute, par la vie, par la prière, par l'obéissance à la conscience, pour que cette conscience, ce phénomène propre, apparaisse alors non plus comme uniquement de nous-mêmes, mais comme déjà dans la conscience naturelle, entre guillemets, et puis, alors évidemment, quand la conscience sera éclairée par la révélation, comme la manifestation du divin en nous. Divin qui a des formes diverses dans le paganisme, mais qui va être trouver son image récapitulatrice unique, achevant, parachevant, deux formes de révélation, une révélation faite aux païens par la philosophie, une révélation directe au peuple hébreu, la figure du Christ. C'est ça que sous-entend le récit de la première conversion de Newman, et c'est ce qu'il a voulu monnayer à travers son épistémologie, sa théorie de la connaissance. C'est ce qu'il a voulu montrer dans sa vie, en montrant comment, à partir de cette expérience, il s'est acheminé progressivement jusqu'à l'Église et à l'Église catholique, parce que l'Église catholique conservait en elle l'image du Christ, et que c'était en elle alors qu'il pouvait reconnaître pleinement cette image qui s'était manifestée à lui, un peu déjà confusément dans la conscience et toujours plus clairement dans l'Église. Voilà. Mais si, pour que cette image devienne claire, il faut l'écoute de la conscience qui produit une impression et qui produit une image en nous. Il faut donc laisser place, rendre sa place à l'imagination. Voilà, c'est la leçon que Newman nous laisse, et c'est celle que j'ai été content de partager avec vous. Merci. Des questions? Ça peut être directement, ça peut être lié, ça peut être parallèle, ça peut être comme vous voulez.
À quel point il faut passer par les concepts pour atteindre cette réalité de Dieu qui est dans notre conscience?
À quel point il faut passer par les concepts pour arriver à
Dieu,
Il faut passer à quel point c'est une bonne question, mais c'est une drôle de question. Écoutez, il faut se rendre compte d'une chose. Je vous ai dit qu'il y a deux formes d'idolâtrie, entre guillemets. Il y a une idolâtrie, j'allais dire picturale, c'est-à-dire l'idole au sens du divin, du dieu qu'on représente, parce que c'est nous qui nous représentons le dieu et qui lui donnons une forme, d'accord ? Donc c'est nous qui avons la maîtrise sur la forme que nous lui donnons. Il peut y avoir des ressentis, hein. Je veux dire, il peut y avoir une expérience. Mais au moins, c'est nous qui avons la maîtrise sur la représentation. Idole au sens propre du terme. Il y a les idoles spéculatives, les idoles conceptuelles. Alors ça, on en parle un peu moins, mais ça existe. Et ça s'appelle la philosophie, certaines philosophies. C'est-à-dire que le rayon possible de notre entendement, un moment donné, s'arrête, et au moment où il s'arrête, il produit un concept. Alors soit on a conscience que ce concept est limité, produit par nous, il est un moment de cristallisation. Vous savez, un concept, c'est un cristal de signification, hein, un concept. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais bon, c'est un cristal de signification. Il y a eu un faisceau d'éléments que l'on a réunis, et ça s'appelle un concept. Bon, mais c'est nous qui le produisons, vous comprenez ? Donc, que cela soit dans la représentation du divin, ou que cela soit dans la théorisation du divin, de nature philosophique ou de nature religieuse, le propre du concept, c'est d'être la limite, c'est d'être notre limite, c'est de signaler notre limite. Parce qu'au-delà du concept, il n'y a plus de pensée constituée. Il y a de la pensée, Newman nous l'a dit, hein, le pensée naturel dépasse tous les concepts. Mais il y a, au-delà du concept formalisé, c'est la limite d'horizon. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi penser. Bon, après ça peut repartir, si vous voulez. Mais enfin, bon, c'est un moment d'arrêt quand même, de cristallisation. Alors j'ai envie de dire, à quel moment, dans quelle mesure il faut, et jusqu'où faut-il penser par concept pour aller jusqu'à Dieu ? Je pense qu'il faut surtout faire en sorte que, d'abord avoir conscience que le concept est notre production et qu'il a ce caractère, entre guillemets, encore une fois, je ne le connote pas négativement, il a une connotation négative, idolâtrique, il faut faire en sorte, j'ai presque envie de vous dire, allez devant le Seigneur et dites-lui, voilà ce que je pense, Seigneur, je vous le donne, je ne peux pas penser plus, c'est ma limite. Est-ce que vous êtes au-delà de cette limite ? Est-ce que vous êtes dedans ou est-ce que vous êtes en deçà ? Est-ce que mon concept vous fait écran à ce que vous êtes ? Alors si c'est le cas, transformez-le. Alors si c'est là, retournez-le. Si c'est ça, montrez-moi que ce que je pense, c'est ce que je pense et ce n'est pas votre pensée. Vous voyez, dans la formation théologique, dans la formation tout court, on a mis au premier plan la philosophie, puis après on vient la théologie. D'accord ? Bon, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse parler de Dieu. Il n'y a que Dieu qui se connaît. Il n'y a que Dieu qui va nous donner les concepts adéquats et proportionnés à lui-même. Eh bien, on l'a, ce concept. D'abord, ce n'est pas un concept, c'est une parole. Il y a du concept dans la Bible. Hein. Il y a du concept dans la Bible. Donc, il y a une parole. Une parole qui nous fait perdre toute maîtrise. C'est-à-dire qu'il nous demande une première chose, c'est fais silence et ouvre-toi. Ensuite, ne confonds pas comprendre et expliquer. Ouvre-toi, vis avec cette parole et tu vas comprendre. Et tu ne vas pas forcément comprendre conceptuellement, tu vas comprendre existentiellement. Mais tu vas aussi comprendre conceptuellement. Mais c'est d'abord ta vie qui va t'apprendre. C'est d'abord ta manière de vivre qui va t'apprendre et qui va t'ouvrir à quelque chose que tu ne peux pas penser si tu ne vis pas de cette manière-là. Il faut commencer par donc renverser le regard, il faut commencer par s'exposer, il faut commencer par faire fondre les idoles spéculatives devant le soleil de vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Ou bien c'est... Oui ? Voilà. Donc voilà. Mais alors, J'ajoute immédiatement, pour éviter toute équivoque, que cela ne veut pas dire tomber dans le fidéisme. Parce qu'on a une mauvaise conception du fidéisme. Et je vous l'ai dit quand on a parlé de la comparaison entre Locke, hein, les rationalistes, et puis ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas la béquille de la raison. Croire, ce n'est pas... je ne peux pas avoir de certitude rationnelle, alors je crois. Oui, c'est possible, c'est probable, ça va arriver. Bon. Non, ce n'est pas ça, croire. Croire, c'est d'abord, croire, c'est ce qu'on appelle c'est une vertu théologale, ça nous est donné, c'est l'illumination, premièrement. Deuxièmement, c'est ce qui, en nous, supporte, je vous ai dit, l'excès de lumière. Vous voyez ? En fait, on est rempli de Dieu et puis on ne le voit pas. On est rempli de paroles de Dieu qui bourdonnent en nous et on ne les entend pas. Et la foi, c'est ce qui nous permet de supporter. C'est ce qui nous permet de supporter jusqu'au moment de notre mort l'entrée dans la gloire. Et la gloire, ce n'est pas la foi qui va s'évanouir puis la gloire qui va commencer. C'est la gloire incoative qui est déjà en nous qui va se déployer. Vous comprenez ? Et sinon, on va se dire « Ah ! Mais il était là et je ne le voyais pas. » Ben oui, on est dedans tout le temps. On est toujours en lui, vous comprenez ? La foi, ça nous permet de supporter, j'allais dire, sa présence. Bon. Alors que pour la rationalité limitée des empiristes, la croyance est une béquille, un vide qui ne remplit rien, un remplissement qui ne comble rien. Voilà.
C'est pas tant une question, plutôt une remarque, mais... cette année est pour nous une grande source d'enrichissement intellectuel, puisque au début d'année, nous avons eu un cours du père Glasson sur les moyens de connaissance de Dieu et que vous avez les possibilités, les moyens de la connaissance de Dieu pour nous les hommes, et notamment que les sens n'étaient pas du tout, ça ne sert à rien, on ne peut pas sentir Dieu avec nos sens. Donc là, vous nous avez dit, là nous recevons le cours d'un philosophe qui nous dit que, en tout cas, on peut sentir Dieu.
Moi, je m'appuie sur ce que Newman a dit et son expérience. Quand vous avez des hommes, vous comprenez, quand on parle d'expérience, ça fait peur. On dit, oh là là, l'expérience est subjective, l'expérience est votre expérience, vous ne pouvez pas l'universaliser, vous ne pouvez pas la généraliser. C'est vrai. Sauf que l'expérience chez Newman, elle est très équilibrée, puisque l'expérience pour lui est inséparable de l'impression qu'elle produit et de l'intelligence qui va éclairer ensuite ce qui a été ressenti en nous. Dans l'élément de l'imagination. Raison pourquoi l'expérience est de ce point de vue-là, du point de vue Newman, universalisable. Parce qu'il va tenir ensemble le rapport, l'acheminement personnel, je vous l'ai dit ce matin, de l'individu vers la vérité, et en même temps le caractère objectif, universel de la vérité, qui reste vérité, indépendamment des chemins empruntés pour y arriver. Mais je pense que... je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, je viens à vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose dans le récit de la première conversion de Newman. Vous y réfléchirez. Mais écoutez la comparaison qu'il pose. Cette conversion intérieure, c'est-à-dire, là il faut lire ça à rebours, il faut partir de il n'y a que deux êtres absolus, etc., moi-même et mon créateur. Ça c'est ma conviction la plus profonde, j'en ai fait l'expérience, je le sens, je l'ai senti, etc. Il va nous dire, cette conversion intérieure dont j'étais conscient, et donc je suis plus certain que d'avoir des mains et des pieds. Mais, réfléchissez, est-ce que vous pouvez être certain d'avoir des mains et des pieds ? Ouais, répondez-moi. Ben non. Non. Non, non. Vous n'êtes pas certain. C'est pas du caractère, ça n'entre pas dans le domaine de la certitude, dans la catégorie de la certitude. C'est un donné. C'est un donné premier absolu. Vous ne pouvez pas douter. Puis si vous doutez, vous jouez. Je veux dire, cette main, c'est ma main. Je pourrais tout dire, mais est-ce que c'est ma main ? Je ne vois pas, je suis aveugle, je suis flou, je suis myope, je suis... Bon, non. Tout, mettez-la dans le feu. Vous verrez bien que c'est votre main. Bon. Donc, ce que Newman nous dit, c'est que toutes ces philosophies qui partent du doute pour aller à la certitude, c'est des philosophies rationalistes. Plus une philosophie est rationaliste, plus elle engendre de l'incertitude. Elle s'amuse à créer des doutes, des espèces de failles qu'elle veut combler. Bon, parce qu'elle cherche une certitude conforme à ses protocoles, protocoles logiques. D'accord ? Newman nous dit, la certitude, elle est indexée sur le corps. Votre Descartes dit « je pense, donc je suis ». Newman dit, quand il dispute « je sens, donc je suis ». Sensio ergo sum. Et qu'est-ce que je sens en premier ? Moi-même. Et quoi moi-même ? Mon corps. L'expérience fondamentale, le fait primitif, ce qui vous fait dire « oui, c'est moi », ou qui vous donne conscience de votre ipséité, de votre personnalité, de votre ego, c'est pas la pensée, c'est le corps. C'est le fait primitif. Le premier sentir, c'est le sentir de votre corps. Parce que c'est vous, et bizarrement, il y a une altérité. Réfléchissez à ça. On a un corps et on est un corps. Nous avons un corps et nous sommes notre corps. Donc il y a une relation étrange. L'expérience du toucher, c'est assez simple pour que Fabrice Adjadj a dû certainement vous en parler. Quand vous touchez, il y a plusieurs choses. Vous touchez, vous sentez ce que vous touchez et vous sentez que vous touchez. Et quand vous vous touchez vous-même, vous démultipliez l'effet. Donc vous avez une espèce d'identité de l'altérité. Bon, donc, la relation, ce qui atteste à vous-même votre évidence, votre existence absolue, c'est votre corps. C'est indirectement ce que Newman nous dit là. Et il y a un philosophe, et c'est pas un petit, qui a vu ce que Newman a dit. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de lui, c'est Wittgenstein. Wittgenstein, philosophe de Cambridge, un des grands du XXe siècle. Bon, athée, loin de toute connotation, de toute culture religieuse et tout. Il a écrit un livre à la fin de sa vie qui s'appelle Ungewissenheit, sur la certitude. Hein. Premier paragraphe de ce livre, qui est un livre majeur de la philosophie du XXe siècle, il dit, ce que je vous dis là, le doute, c'est un jeu philosophique, on part jamais du doute, on part de la certitude, elle est donnée, elle est première, et elle a un caractère d'absolu. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit, dans une phrase un peu curieuse, il cite Newman, cette phrase-là, certain d'avoir des mains et des pieds. Bon. Donc, ça fera un très bon sujet de mémoire, hein, parenthèse. Parce qu'il y a des kilos à écrire là-dessus. Oui.
Comment est-ce qu'on place Newman par rapport à la phénoménologie d'Eric Stein et le rôle des personnes ?
Alors, c'est ma thèse. C'est ma thèse de doctorat. Quand vous lisez Newman, lu par les philosophes, il y en a quand même quelques-uns, il faut quand même savoir que Newman a été reçu par des philosophes avant d'être reçu par des théologiens. Bergson lisait Newman. Alors, Edith Stein a traduit Newman. Il y a une proto-phénoménologie chez Newman. Parce qu'en fait, Newman n'est pas métaphysicien. Newman est il décrit. Simplement, alors ça pourrait être un empiriste, hein, ça pourrait être un William James avant la lettre, bon, ou avant l'heure. Non, le mode de description de Newman s'apparente à la phénoménologie. Mais si vous relisez l'expérience de 1816, vous savez, pour parler de phénoménologie, il faut être sérieux, parce que donc, on met tout sous le mot phénoménologie. Husserl, qui a formalisé la phénoménologie, nous dit « il n'y a de phénoménologie que s'il y a réduction ». Donc s'il y a les trois principes, c'est-à-dire suspension, réduction, constitution. Suspension, mise entre parenthèses de toutes les théories, de toutes les thèses, d'accord ? Bien. C'est une mise entre parenthèses théorique. Existence du monde, de ceci ou de cela. Bien. Donc vide, mise à distance. Deuxièmement, réduction, retour sur soi-même. Analyse de ce que j'ai vécu, analyse de ce que je perçois, analyse de ce dont je me souviens, etc. Tout ce que vous voulez, toutes les gammes de l'expérience, mais qui demande une distance, une mise en retrait. Puis troisièmement, dégagement de l'essence. Qu'est-ce que c'est ce que je vis ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ce que je vis ? Ça, c'est la démarche phénoménologique. C'est la condition sine qua non pour qu'on puisse parler de phénoménologie. Vous le trouvez dans la relation, dans l'expérience de 1816. Premièrement, vous avez, vous avez une intuition, rencontre de quelque chose, le dogme. Deuxièmement, vous avez la mise en retrait. Le dogme produit une impression. Cette impression, quelle est-elle ? Mise entre parenthèses du monde extérieur, ou en tout cas, mise à distance de la phénoménalité du monde extérieur et du monde sensible. D'accord ? Et troisièmement, dégagement de l'essence. Dégagement du sens de ce qui m'arrive, de ce que c'est. Newman va dire... en moi, il y a quelque chose de plus indubitable que le monde, c'est moi-même et c'est mon créateur. Voilà. Alors, mais il y a une relation, il y a une, il y a un lien encore plus étroit entre la phénoménologie et Newman. Husserl avait pour maître Franz Brentano. Franz Brentano était un professeur à Vienne qui enseignait la psychologie et qui a renouvelé complètement la psychologie. Bon, c'est de lui que Husserl, à partir de lui que Husserl a constitué la phénoménologie. Brentano était à l'origine, en fait, un prêtre et qui a eu des problèmes avec le Concile Vatican I. Question de l'infaillibilité. Il y a un homme qui était le spécialiste de cette question, c'était Newman. En 1872, Brentano est envoyé par un ami de Newman à Birmingham. Il va passer 15 jours à Birmingham, dans la communauté de Newman. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit, mais j'imagine très bien qu'ils n'ont pas dû que parler de Vatican I et des problèmes. Newman lui dit, dans une lettre lapidaire un peu laconique et énigmatique, ou plutôt c'est Brentano qui lui dit « Tout ce que vous m'avez dit de faire, je le ferai scrupuleusement. » Que lui a-t-il dit ? Brentano était tiraillé entre deux vocations. Sa vocation de prêtre et de théologien, mais sa vocation de philosophe. Et sa vocation de philosophe prenait le pas. Newman a connu un même cas, c'était celui de Hopkins, le poète Hopkins. Hopkins est venu à lui, il était tiraillé entre une vocation poétique et une vocation religieuse, sacerdotale. Newman lui a dit, typique, cédez au Seigneur, mais ne perdez pas votre vocation poétique. Bon. Il a peut-être dit la même chose à Brentano. Il lui dit, écoutez, mon vieux, tous vos problèmes avec le Concile, ça se résoudra peut-être. Enfin, gardez les deux. Suivez vos vocations de philosophe, mais restez dans l'Église et restez prêtre. Alors, Brentano est reparti, ça n'a pas duré longtemps, 2 ans après, il a tout envoyé balader, et il est devenu. Il n'a jamais été anticlérical, ni il n'avait jamais perdu la foi, mais il est devenu un pur philosophe. Et grâce à Brentano, Husserl a pu concevoir les premiers éléments de ce qu'allait devenir la phénoménologie. Ce qui fait de Brentano le grand-père de la phénoménologie et de Newman son grand-oncle. Donc à ce titre, Newman peut être considéré comme un père de la phénoménologie. Mais cela dit, oui, tous les philosophes ont reconnu le caractère phénoménologique de la pensée Newman. Et c'est comme ça qu'il faut le lire, à mon avis, pour que ça soit vraiment intéressant. Je suis presque certain que Heidegger l'a lu aussi. Mais ce serait difficile à établir, mais j'en suis quasiment certain. En tout cas, sur le développement. Mais bon, voilà. Oui.
Est-ce qu'il vous manque une lecture de l'épisode des disciples d'Emmaüs ?
Non, malheureusement pas. Non. Mais encore que je vous dis ça, il va peut-être le mentionner. Vous savez qu'il a son corps, le corpus de ses œuvres, c'est 32 recueils de lettres, 32 volumes de recueils de lettres, de correspondances, de 500-600 pages chacun. C'est 15 volumes de sermons, 8 sermons anglicans, 7 sermons catholiques à peu près. C'est une cinquantaine de livres de traités de théologie et de philosophie. C'est 90 tracts théologiques dont je vous ai parlé. Et puis deux romans, deux recueils de poèmes. Et puis maintenant, on est en train de découvrir des partitions de musique. Bon, bref, ça n'en finit pas. Donc, les 8 recueils de sermons paroissiaux. Si vous voulez lire Newman, vous pouvez lire ses livres théoriques, vous pouvez lire l'Apologia, vous pouvez lire l'essai sur le développement de la doctrine chrétienne, vous pouvez lire la grammaire de l'assentiment, c'est un peu plus difficile, il faudra quand même vous bosser un peu plus auparavant. Mais surtout et avant tout, lisez les sermons. Lisez les sermons paroissiaux. Vous allez voir. Parce qu'en fait, tout ce que je vous ai dit là, il le monnaie d'une autre manière dans les sermons paroissiaux. Alors peut-être que, en regardant dans un index, vous trouverez quelque chose sur les sermons, sur les disciples d'Emmaüs, une lecture à peu près similaire à celle que ce que je vous ai dite. Mais ce que vous y trouverez, c'est la capacité que les sermons paroissiaux, et donc la prédication de Newman, a de susciter des images, de faire impression. Quand on sortait des sermons de Newman, qui duraient 40 minutes ou 50 minutes à l'époque, les gens disaient... Il disait deux choses. On a l'impression qu'il a parlé de nous-mêmes et qu'il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et deuxièmement, et ça c'est unanime, ils avaient tous l'impression d'avoir été touchés par le Christ. D'avoir été en face de lui, de l'avoir vu, de l'avoir entendu, de l'avoir senti touché, comme saint Jean nous le dit. Et ce n'était pas du tout un prédicateur enflammé à la Wesley dont nous a parlé le père Yohanan, sauf qu'il y a un parallèle avec Wesley. Et plus qu'un parallèle, C'est que Wesley, et ça, j'aurais bien voulu que le père Yoran me dise, il a oublié, prêchait où à Oxford, parce qu'il était à Oxford aussi. Il prêchait à St. Mary's, une église, l'église, la paroisse universitaire d'Oxford. Or, dans la chaire même où Wesley a prêché, Newman a prêché à son tour, très peu de temps après lui. Donc, alors à la différence de Wesley, qui était plutôt enflammé dans ses prédications, c'est le tempérament évangélique qui fait appel au cœur, mais un cœur qui est un petit peu plus sentimental. Enfin, Newman, ça ne lui plaisait pas trop. Wesley lisait ses sermons. Son anglais était tellement cristallin qu'on pouvait découper, compter ses syllabes, tellement elles étaient claires. Autrement dit, il lisait et parlait l'anglais comme on parle français. D'ailleurs, un poète américain, Wallace Stevens, dit que l'anglais est un dialecte français. Et donc Newman en était apparemment la preuve. En tout cas, c'était pas un marshmallow tel que l'anglais peut l'être aujourd'hui, parfaitement découpé et surtout d'un ton qui n'était pas monotone ni monocorde, mais qui ménageait. Newman était violoniste et en fait il parlait et il écrivait, il argumentait et il prêchait comme on joue du violon, c'est-à-dire des coups rapides et puis après l'archet un peu plus long, et on reprend, et puis des suspensions. Et quand vous lisez les sermons paroissiaux, vous avez l'impression que c'est de la musique. C'est de la musique, presque. Oui. Donc voilà. Voilà, c'est Newman. Donc lisez-le, écoutez-le, et puis préparez-vous, parce que d'ici 2-3 ans, 5 ans au maximum, il sera saint. Vous pouvez déjà le prier. Voilà, merci.